Micro-Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour pour cette nouvelle édition de Micro-Rebelle Hebdo, le magazine de notre association radiophonique Micro-Rebelle. Je vous rappelle que nos émissions sont diffusées en direct chaque vendredi de 18h à 19h sur micro-rebelle.fr et rediffusées par des radios partenaires, des radios associatives, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est le cas de Radio PFM 99.9 dans l'Arrajois, qui nous rediffuse chaque vendredi à 20h, chaque samedi à 7h30 et tous les dimanches à 14h. Et c'est le cas également de Radio Plus 104.3 dans le bassin minier, qui nous rediffuse chaque mardi à midi. Merci à eux et donc bienvenue pour cette nouvelle émission. Un petit tour de table, donc je suis Lucien, bénévole à Micro-Rebelle, à la technique Luc.
Salut tout le monde.
Autour de la table, Aurélie.
Bonjour.
Et notre ami Olivier, comme toutes les deux semaines.
Salut tout le monde.
Eh bien, le programme de ce Micro-Rebelle Hebdo, c'est un peu du classique, du reportage, actualité sociale, politique, reportage de tout ce qui se passe dans le bassin minier, enfin tout, reportage de certaines choses, certaines initiatives qui se déroulent dans le bassin minier. On va procéder à la revue de presse également, actualité. Et puis comme je vous le disais, Olivier est parmi nous, donc ce sera la chronique à deux coups. Une fois c'est un coup de cœur, une fois c'est un coup de gueule, et je crois qu'aujourd'hui c'est le cas, ce sera un coup de gueule. Eh bien on va, sans attendre, démarrer par l'agenda culturel et social. Eh bien, on va démarrer justement par parler de Micro-Rebelle, dont c'est l'assemblée ouverte. Comme chaque dernier samedi du mois, c'est le samedi 29 juin, et Micro-Rebelle propose à ses adhérents et adhérentes, ainsi qu'à ses auditrices et auditeurs, de se retrouver dans le cadre d'ateliers d'échange autour des émissions radiophoniques mises en œuvre par notre radio. C'est donc le samedi 29 juin de 10h à 12h30 et c'est au LAG. Comme ce sera la dernière assemblée ouverte avant les congés d'été, ce sera suivi d'un barbecue convivial. Alors pour cette assemblée générale, nous invitons toutes les personnes, adhérentes ou non, bénévoles, militants, militantes, pour réfléchir à quelques questions. On va se projeter un peu dans l'avenir, on va se projeter pour après les vacances d'été. Typiquement, quel type de radio dans le bassin minier? Radio de journalisme? Journalisme amateur? Quel type de journalisme? Est-ce qu'il nous faut plus de flash, plus d'analyse, plus de reportage? Une radio à caractère culturel, qu'est-ce que ça peut signifier? Une radio avec davantage de musique? Est-ce qu'on souhaite rester en musique libre? Quel type de programmation, comment remplir une grille avec des contenus de qualité? Faut-il impliquer d'autres radios dans notre grille de programme? Et puis finalement, chères auditrices, chers auditeurs, quelle radio souhaitez-vous? Quelle radio souhaitent nos auditrices et nos auditeurs? C'est donc le samedi 29 juin de 10h à 12h30 au LAG et ce sera suivi du barbecue fraternel.
Aura lieu la troisième assemblée des assemblées des Gilets jaunes. Donc, petit rappel, la première s'était déroulée à Commercy, la deuxième en Loire-Atlantique, et cette fois-ci, ça se passera à Montceau-les-Mines, dans le 71, au gymnase du Poulou, rue de la Tanière.
Toujours samedi 29 juin, se tient le forum européen « Les migrations font bouger le monde ». Venez donc discuter d'interculturalité, changer de regard sur les migrations et déconstruire les idées reçues avec l'association GRDR, le groupe de recherche développement rural et ses partenaires. Au programme, des conférences débats, des ateliers participatifs, un village associatif avec des projections, des jeux, des démonstrations et en soirée, festivités et musique. C'est donc samedi 29 juin de 9h30 à 22h à la maison Stéphane Hessel à Lille.
Le mardi 2 juillet, on se retrouve pour une grosse action de désobéissance civile non violente contre les multinationales organisée par ANV COP21, les Amis de la Terre et des Gilets jaunes de Lille. J'imagine que l'on va bloquer quelque chose. Face à l'urgence sociale et écologique, le gouvernement continue de faire le jeu des plus grands responsables de cette crise, les multinationales. Ensemble, exigeons des mesures sociales et écologiques contre ces intérêts privés absurdes. Nous n'avons pas plus de précisions. Sur les lieux de rendez-vous.
Vendredi 5 juillet, c'est l'auberge espagnole du planning familial. Planning familial qui diffuse sur microrebelle.fr l'émission Le Gang des Hystériles. Et l'été arrive, oui, il est là, il est même très très proche. Et l'équipe du planning familial 62 serait contente de vous retrouver pour fêter ça. Histoire de se dire au revoir avant les potentiels départs en vacances. On vous invite donc à venir nous retrouver dans le chapiteau de l'association Cirque en Cavale qui nous prête amicalement le lieu le soir du vendredi 5 juillet à partir de 19h au 42 rue du Guitte à Pernes-en-Artois. Chacun et chacune ramène quelque chose à boire ou à manger, salé ou sucré, et la soirée sera parfaite. Si vous souhaitez ramener vos instruments et autres déguisements, jeux, etc., n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que nous partagerons tout ça. Donc vendredi 5 juillet à partir de 19h à Cirque en Cavale au 42 rue du Guitte à Pernes-en-Artois.
Le samedi 6 juillet, on se retrouve pour la foire aux installs, donc ça débutera à partir de 14h au LAG, 23 avenue Jean Jaurès. Les foires aux installs sont organisées conjointement par de super organisations libristes de la région, comme CLIS21, Linux62, Stinux, CLX, Mycelium. Une présentation thématique aura lieu dès 14h. Si vous avez beaucoup à faire, pensez à venir avant 15h30.
Bien, cette agenda se termine. On va procéder à un premier reportage. Donc Luc, c'est toi qui l'as réalisé, c'est même toi qui a conduit l'activité.
Alors c'est pas tout à fait un reportage pour être précis, c'est plutôt bon, ce qu'on appelle dans le jargon radiophonique une création sonore. Donc effectivement tous les troisième mercredi du mois, en général, c'est parfois un peu aléatoire, selon nos agendas, on organise un atelier un peu improvisé de création sonore au café Nino Kids, c'est le café associatif, café des enfants, qui se trouve rue Victor Hugo à Liévin, comme les studios de Micro Rebelle. Alors cette fois-ci, c'était la fête de la musique, et donc on a fait un conte sonore.
En des temps très anciens, le désordre régnait sur la terre. Personne n'écoutait personne et chacun désirait accaparer l'attention en criant plus fort que le voisin. Des vents au sifflement incessant battaient la campagne et les hommes qui ne connaissaient pas la douceur de vivre se querellaient sans cesse. Au milieu de ce vacarme, un tout jeune enfant jouait au pied d'un arbre. Mécontent, il leva sa menotte.
La main.
Ce simple geste réussit à imposer le silence aux éléments. Un instant, le chahut ne fut plus qu'un murmure.
Un oiseau sur une branche basse en profita pour faire des vocalises. Intrigué, le bébé s'approche à quatre pattes pour mieux entendre ce bruit merveilleux. L'animal, fier d'avoir un auditoire, continua de plus belle. Son chant emplit La clairière monta jusqu'au soleil, mais il mourut étouffé par le retour d'un tintamarre assourdissant. L'oiseau obstiné renouvela ses tentatives. Chaque jour, il revient près du petit garçon. Il attendait avec patience le moment propice, puis il s'appliquait à trouver de nouveaux chants, des trilleux encore plus magnifiques. Et là, ces instants de parfaite harmonie étaient toujours de courte durée, puisque cris, hurlements et piaillements les interrompaient sans cesse. Un jour, la cacophonie fut intolérable. Et l'enfant perdit patience. Il posa son index sur la bouche et il émit un chut si retentissant et si sonore que la terre entière lui obéit. L'oiseau put alors chanter des jours et des jours sans être interrompu. La pluie écouta avec attention, les vents chuchotèrent de bonheur à l'oreille des arbres. Peu à peu, des musiques extraordinaires se firent entendre. Les cigales et les grillons accordèrent leurs violons. Tandis que les hommes apprirent à utiliser le bois pour confectionner des instruments. Les dieux, étonnés par tant de beauté et de sagesse, revinrent et ils posèrent une main bienveillante sur la tête de l'enfant. Depuis, chaque bébé qui naît porte un tendre renflement au-dessus des lèvres, comme si un index délicat y avait laissé son empreinte.
L'enfant et la musique, un conte de Jocelyne Marc, raconté par Clécia, avec la participation de Nathan, Matteo, Karl et Luc, enregistré au café Nino Kid avec Micro Rebelle.
Voilà, bravo aux enfants du café Nino Kid.
Belle ambiance, hein.
C'est tout mignon.
Ils ont quel âge?
Bah oui, il faut le préciser parce qu'ils sont très très jeunes et ils ont fait ça pourtant pas mal, avec beaucoup de concentration. 6 ans pour la petite fille qui lit, Clécia. Donc c'est sa première année de lecture officielle, je crois qu'elle est en CP. Et puis il y avait son petit frère qui avait 4 ans et un autre enfant qui avait 3 ans, qui ont plutôt participé à faire les bruitages. Oui, la plupart des sons, à part le tonnerre, le violon et les oiseaux, je crois, qui ont été piochés sur différentes banques de sons libres de droit, ont été enregistrés à ce moment-là.
Ben, bravo à elle et à eux, et bravo à l'animateur radiophonique.
Merci Lucien.
On continue sur microrebelle.fr, sur Radio PFM et sur Radio Plus. Actualité et revue de presse que je vous présente avec Aurélie. On va commencer par quelques brefs d'actualité. Donc cette semaine, le mardi 18 juin, l'agence de presse Bloomberg a annoncé que la fortune de Bernard Arnault avait franchi les 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est 89 milliards d'euros. Ce patron du groupe de luxe LVMH, propriétaire de médias comme Le Parisien et actionnaire de Carrefour, devient par la même occasion le troisième homme le plus riche du monde, derrière le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et le patron d'Amazon, Jeff Bezos. L'augmentation de la fortune d'Arnault est hallucinante. depuis janvier 2019, elle s'est accrue de 30 milliards d'euros, soit le coût de la construction de 80 hôpitaux ou de près de 900 000 emplois payés à 1 800 euros net cotisations acquittées. Alors signalons, à propos de Carrefour, que cette enseigne vient d'annoncer 3 000 suppressions de postes. Alors dans la presse cette semaine, vu dans La Voix du Nord, durant 3 jours, dans ce journal La Voix du Nord, l'État s'est payé une publicité dans les pages de La Voix du Nord. Je vous lis cette publicité. Alors tout d'abord, c'est une pleine page. On voit un dessin, un radeau, avec dans ce radeau, dans cette embarcation des migrants. Et le titre de cette publicité pleine page, en bleu, blanc, rouge, « Aidez-nous à sauver des vies ». Traverser la Manche sur des embarcations inadaptées et périlleux, nous dit cette publicité payée par l'État. En 2018, 350 migrants en danger ont été secourus en mer. Votre action peut contribuer à sauver des vies et à lutter contre le trafic d'êtres humains et les réseaux criminels. Soyez attentifs aux rassemblements nocturnes inhabituels sur la plage, laissant présager des départs. Signalez les embarcations et le matériel nautique à l'abandon. Signalez tout comportement non marin, navigation à feu éteint ou à trajectoire anormale. Voilà, donc cette semaine, on a eu 3 jours consécutivement cette publicité dans La Voix du Nord. Alors, peut-être une petite analyse de cette publicité. Alors ça n'est évidemment pas anodin que l'État choisisse La Voix du Nord pour passer cette pub, étant donné le contexte des migrations sur le littoral du Nord, particulièrement à Boulogne ou à Calais. Le titre se veut généreux. Il s'agit de « sauver des vies ». C'est écrit en très grand dans cette publicité. Mais c'est en fait un appel à la délation. Soyez attentifs. Signalez les embarcations. Signalez tout comportement non marin. Le ministère incite les habitants à signaler à la police tout indice révélant la préparation d'une tentative de traversée de la Manche sur une embarcation. Le ministère de l'Intérieur fait dans l'humanitaire en écrivant notamment « contre le trafic d'êtres humains ». Rappelons quand même que ce fameux trafic d'êtres humains n'existerait pas si le droit de circulation et d'installation était reconnu à tout être humain. Or, c'est de la responsabilité de l'État d'opter pour ce droit de circulation et d'installation. Enfin, quant au, je cite, « traverser la Manche dans des embarcations non adaptées, c'est périlleux », on peut également s'interroger. Est-ce que être renvoyé dans son pays à ses tortionnaires, sous les bombes ou dans la misère, n'est-ce pas périlleux? Et devoir survivre ici, dans des conditions insalubres et dans le dénuement, n'est-ce pas également périlleux? Bref, une page de pub bien hypocrite. Alors à propos de l'État et des migrations, cette info vue dans La Voix du Nord, la préfecture a l'obligation d'installer douches et sanitaires pour les migrants à Grande-Synthe. Effectivement, l'article détaille « Le Conseil d'État a enjoint vendredi la préfecture du Nord d'installer des points d'eau, douches et sanitaires à proximité d'un gymnase de Grande-Synthe autour duquel vivent quelques 700 migrants et d'organiser des maraudes pour les informer de leurs droits. La plus haute juridiction administrative donne un délai de 8 jours pour installer ces points d'eau, douches et sanitaires en nombre suffisant. » Saisi en référé par 9 associations, rejointes par la commune de Grande-Synthe, qui voyaient dans les conditions de vie de ces migrants et l'inaction de l'État une violation de leurs droits fondamentaux, le Conseil d'État annule ainsi une décision du tribunal administratif de Lille datée du 9 mai. Bravo donc aux exilés et aux assos qui les ont soutenus dans cette démarche. Bravo pour ne pas avoir lâché et être allé jusqu'au bout au Conseil d'État. Revue de presse toujours, nous signalons le dossier paru cette semaine dans Liberté Hebdo, un dossier consacré aux facteurs, oui, aux factrices et aux facteurs, et plus généralement à la situation de la poste. On y découvre des luttes pour préserver les bureaux de poste, par exemple à Le Ward. On y apprend comment est faite la journée type d'un facteur, ainsi que la progression de la précarité, de l'ubérisation et de la déshumanisation dans les divers métiers de la poste. Un dossier à retrouver donc cette semaine dans Liberté Hebdo. La presse commence à parler du SNU, le Service National Universel. Exemple aujourd'hui même, dans La Voix du Nord, cet article plein de lyrisme. Le SNU, une colo d'un nouveau genre à base de cohésion et d'engagement. Je vous lis l'extrait de cet article de La Voix du Nord. 200 jeunes volontaires d'autres départements ont bouclé, à Tourcoing et Morbecque, la première phase de l'expérimentation du service national universel. Ils se quittent ce vendredi comme au dernier jour d'une colonie de vacances, en s'embrassant, en s'échangeant les 06, en versant des larmes. Mais une colo d'un nouveau genre, où l'on porte l'uniforme et l'on entonne spontanément la Marseillaise au moment de rompre les rangs. La centaine de volontaires, âgés de 15-16 ans, de l'expérimentation de la première phase du service national universel, a rempli sa mission, vivre 2 semaines avec des garçons et des filles d'autres départements, aucun nordiste sur les sites du lycée professionnel Le Corbusier à Tourcoing et sur la base des éclaireurs de France à Morbecque, pour aboutir à une cohésion et s'ouvrir à l'engagement. Josh, venu de Guyane, comme une dizaine de camarades, ne regrette pas l'aventure, même s'il fallait se lever à 6h15. « On aurait préféré se lever à 10h. »« Non, je rigole », plaisante le jeune homme, qui envisage la deuxième phase de 2 semaines, dite d'engagement, chez les sapeurs-pompiers. « C'était une phase cobaye, mais si je pouvais rester encore un peu, je le ferais. J'aurais aimé faire plus de sport, mais ça nous a vraiment changé dans notre façon d'être et nous avons été sensibilisés à plein de trucs. » Notamment l'histoire avec la visite de Notre-Dame de Lorette, du musée de la mine de Le Ward et la rencontre avec Jacques Desbonnets, résistant du Douaisis. Ça m'a appris à mieux vivre en communauté, à sortir de ma chambre. J'ai pris les numéros de tous, j'adorerais les revoir, avoue Ronan en provenance des Ardennes. J'ai découvert de belles personnes avec qui je resterai en contact, on s'entendait tous très bien, se réjouit Andrea de Haute-Saône qui a adoré voir une pièce de théâtre. Marine Duchère retient l'expérience avec d'autres jeunes. C'était super enrichissant de rencontrer des personnes qu'on ne connaissait pas et qui avaient envie de vivre la même chose. Un bémol, il ne s'agissait que d'une expérimentation avec des volontaires, des jeunes déjà séduits par l'engagement, militaire, pompier ou associatif. Nous sommes encore loin, pas avant 2026, du temps où le SNU sera universel et obligatoire. Il fallait bien se lancer, fin de citation. De notre côté, nous serons un peu moins lyriques que la Voix du Nord. Cette année, en effet, ce sont seulement des volontaires, 2000 volontaires, qui se sont ainsi engagés. On peut estimer que leur avis, tel que le relate la Voix du Nord, ne sera sans doute pas partagé par les 800 000 à qui, chaque année, ce sera ensuite imposé. Et d'autres voix commencent à se lever, qui évoquent le SNU comme une opération de soumission de la jeunesse, de remise en cause des droits des travailleurs et travailleuses remplacés par ces jeunes sans droit, et qui va occasionner des dépenses considérables qui ne vont pas à l'éducation et renforcer la militarisation de la société. À Micro-Rebelle, nous pouvons témoigner que les jeunes n'ont pas besoin de s'engager. Ils et elles s'engagent d'ores et déjà contre le racisme, pour que cesse la destruction de la terre, pour le droit à étudier, pour une autre répartition des recherches, pour le droit au logement, pour l'égalité des droits et contre les discriminations, pour une autre information, etc., etc. Dans l'actualité sociale, on se répète semaine après semaine. Un point dur, c'est les questions de santé. Impossible de tout relater dans cette revue de presse, on se contente de citer quelques titres. Dans Liberté Hebdo, il fait chaud aussi pour les urgentistes et les pompiers en grève. Dans La Voix du Nord, avec quasiment un article chaque jour, quelques titres. La grève des urgences s'étend dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les urgences en mode survie, avec toujours moins de médecins. Le SMUR fonctionnera avec une équipe de moins cet été. Je pense que ces titres parlent d'eux-mêmes. Enfin, une dernière actualité sociale. La semaine dernière, on évoquait, dans la précédente édition de Micro-Rebelle Hebdo, les salariés de Durisotti à Salomine qui étaient en grève. Eh bien, lisons ensemble La Voix du Nord cette semaine. En titre, « Les salariés de Liberté Durisotti cessent la grève ». Et l'article poursuit, « On a rencontré la direction 2 fois ce matin. Une porte de sortie est envisageable. Hier, un peu avant midi, le délégué CGT à la négociation chez Liberté Durisotti, Philippe Goya, avait beau douter encore de la volonté de ses collègues d'accepter l'offre de la direction, accusé de « donner d'un côté pour reprendre de l'autre », on sentait la voie des négociations bien engagée malgré tout. L'après-midi, ça n'a pas manqué. Après s'être réunis en assemblée générale, les salariés grévistes, plus nombreux que la semaine passée, selon la CGT, ont communiqué sur la bonne nouvelle. 40 euros d'augmentation de salaire net par personne, une valeur du ticket restaurant augmentée de 4 à 5 euros, et enfin les 4 jours de grève payés. Ils réclamaient 50 euros d'augmentation salariale, mais avec la revalorisation du ticket resto, ils estiment être parvenus à l'accord recherché. Seule la demande de commission paritaire aurait été rejetée, etc. Fin de citation. C'est donc toujours une vraie satisfaction de voir un patron reculer et une grève payée. Je transmets le micro-témoin à Aurélie.
Merci. Un article paru dans Politis cette semaine parle des beaux jours, et particulièrement du lien de cause à effet avec le climat. En effet, vous avez pu remarquer ces jours-ci que nous sommes en alerte canicule, du moins dans certaines régions. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que depuis quelques mois se déroule régulièrement la marche pour le climat. Nous sommes de plus en plus sensibilisés à ce sujet, et c'est devenu le sujet incontournable de cette année 2019. Outre-Atlantique, cela ne semble pas être le cas. Comme le dit l'article, le « je m'en foutisme » de Trump continue encore et toujours. L'article dit, je cite, « La canicule qui accable ces jours-ci l'Ouest européen frappe les imaginaires autant que les corps. Elle souligne les faiblesses de notre société. Elle nous rappelle que le climat est socialement inégalitaire. Ce sont les pauvres, les SDF, les malades, les taulards qui sont le plus violemment touchés. La situation est grave et pourtant, ce ne sont pas dans les HLM, dans les cités pavillonnaires, comme le dit si bien l'article, que le souci écologique va se résoudre. C'est en politique que cette question doit se traiter, mais les dits écologistes eux-mêmes ne le sont que les jours de colloque. Rien n'avance, alors que la promesse de contenir à 1,5 degré le tableau de marge d'ici 2100, lui, ne recule pas. Cependant, quelle réponse apporter à la question écologique ? Je veux dire, si nous pouvions tout à chacun choisir de changer le système en un claquement de doigts, nous le ferions. Enfin, nous, pas les patrons. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais le souci est bien là. L'ouvrier qui travaille dans une grosse multinationale, il a besoin de son travail. Prenons le bassin minier, par exemple. Avec Lens, 33% de chômage en 2018. Mettez au chômage ceux qui travaillent dans ces multinationales, et une ville comme Lens, déjà en difficulté, le sera encore plus. Mais on ne peut pas non plus, d'un autre côté, nier la situation actuelle. Il faut que les choses changent, oui. Mais quelles choses? Comment? Quand? Tant de questions auxquelles les politiciens vont devoir s'occuper rapidement pour éviter que le ciel, ne leur tombe pas littéralement sur la tête.
On va passer à la musique. Un premier extrait. Un groupe qui s'appelle Plagia, c'est du rap français, bien qu'ils chantent en anglais. J'ai découvert ça parce qu'ils sont passés sur scène au CCL la semaine dernière pour une soirée de soutien à Bure, le combat des anti-nucléaires et des anti-projets CIGEO. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez vous renseigner. Le titre, c'est Snapchat ORM. Je me suis trompé, deux morceaux. C'était de l'autre côté. Snapchat ORM, plagiat. Baby. êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité sociale dans le bassin minier et au-delà. C'était Snapchat ORM.
Chronique à deux coups.
C'est le moment de la chronique d'Olivier, chronique bimensuelle. Aujourd'hui, un coup de gueule.
Oui, Luc, un coup de gueule sur le commerce des armes de la France et principalement sur la situation au Yémen. La France tue au Yémen, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un ancien député de La République En Marche, Sébastien Nadeau, exclu forcément, logiquement, de son groupe au Parlement. Selon le site d'information Bastamag, le député demande depuis des mois et des mois la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les ventes d'armes françaises aux pays qui sont en guerre au Yémen. La coalition des belligérants au Yémen est emmenée principalement par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et devinez, ce sont deux gros clients des exportations d'armes françaises. Alors je vais vous faire un petit rappel de ce qui se passe au Yémen, parce que c'est un peu assez compliqué. La guerre actuellement au Yémen était au départ un conflit tribal et confessionnel interne à ce jeune pays qui a été créé en 1990. Mais désormais, l'enjeu est régional et implique deux puissances voisines, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Vous avez tous entendu parler des tensions, surtout actuellement entre Donald Trump et l'Iran. Les États-Unis et les Émirats Arabes Unis sont alliés aux États-Unis de Donald Trump. Au milieu, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique sert de champ de bataille et la population sombre dans la violence, la faim et les maladies, en particulier le choléra. Avec plus de 10 000 tués depuis 2015, plus de 60 000 blessés et déjà 3,4 millions de déplacés, selon un bilan partiel de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, des ONG estiment que le nombre de morts est nettement plus élevé, certaines citant un bilan 5 fois supérieur. Bastamag le souligne dans son enquête. Le gouvernement français ne souhaite aucun débat public sur les exportations d'armes. Malgré cette situation de guerre et de catastrophe humanitaire, l'État français refuse de suspendre ses livraisons d'armement à l'Arabie Saoudite. En 2017, la France a livré plus de 1,3 milliard d'euros d'armement à l'Arabie Saoudite et a engrangé plus de 700 millions d'euros de nouvelles commandes de la part des Émirats Arabes Unis. Moi, je rigole bien quand Emmanuel Macron se vante de parler à tout le monde, à tous les pays du Moyen-Orient, et d'un autre côté, de voir que les 6 sociétés françaises figurant dans le top 100 ont vu leur vente d'armes augmenter de 11% pour atteindre 21,3 milliards de dollars en 2017. Le CIPRI, Institut international de recherche pour la paix de Stockholm, souligne la croissance significative des ventes d'armes du constructeur d'avions de combat Dassault et du constructeur naval Group. Amnesty International appelle à tous les États à cesser de fournir des armes aux parties en guerre dans le conflit yéménite. Le traité international sur le commerce des armes, comme les règles d'exportation d'armement valables pour les pays membres de l'Union européenne, interdisent les transferts de matériel militaire quand il existe des risques de violation grave du droit international humanitaire. Amnesty International rappelle également que le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Norvège ont récemment annoncé la suspension de leurs transferts d'armes vers les Émirats Arabes Unis. Est-ce là aussi une mesure démagogique aux yeux de M. Macron ?
Merci Olivier. Pour cette chronique, on se retrouvera donc dans... pas dans 2 semaines, vu qu'il y aura des congés entre deux, je pense... mais à la rentrée, en tout cas, merci pour ces infos sur ce sujet brûlant et
sujet tout à fait pertinent, sujet dramatique y compris.
Ouais, compliqué à la fois, dramatique et on essaiera d'y revenir dans le courant de l'année.
Il y a une belle hypocrisie de la part de nos gouvernants sur cette question.
Oui.
Alors, Andy Défense, c'est une association de défense des droits des personnes handicapées qui agit dans le bassin minier, notamment ils sont situés à Lens, mais ils agissent un peu plus largement pour aider, accompagner sur tout un tas de thématiques les personnes handicapées. On écoute Hervé Bédu qui est président de l'association et Gérald Dombiki, l'un des bénévoles. Handi Défense est une association du bassin minier lensois créée en 2015 qui a pour but d'intervenir auprès des personnes en situation de handicap, d'assurer un suivi administratif et juridique, de militer pour une accessibilité généralisée, de favoriser l'attribution de logements sociaux, de développer, pérenniser l'emploi des travailleurs et travailleuses handicapées. Nous avons rencontré Hervé Bédu, président de l'association et également correspondant local pour l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privé. Était également présent Gérald Dombiki, membre bénévole d'Handi Défense, ancien aide-soignant dans le monde du handicap. Nous écoutons ce dernier sur son engagement.
J'espère amener au sein de l'association quelques connaissances et puis mon expérience en tant qu'ancien agent, mais aussi en étant moi-même en situation de handicap.
Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de la raison d'être de l'association Handi Défense?
L'association Handi Défense, elle a été créée du fait que j'étais déjà dans une grande association nationale. Donc je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'attentes vis-à-vis des personnes en situation de handicap, même de leur famille, qui avaient très peu d'écoute, de suivi, d'orientation au niveau de leur dossier NDPH. J'ai donc pensé à créer l'association Handi Défense pour une association de proximité et être à l'écoute, surtout, et pouvoir les accompagner dans le suivi de leur dossier. Et
sur quel terrain agit l'association?
Les domaines d'activité qu'elle agit déjà, elle assure au niveau suivi administratif et juridique. Elle fait aussi au niveau de l'accessibilité, en général, au niveau des ERP, établissements de relations publiques, au niveau des établissements privés, enfin, l'accessibilité en général. Après, on essaie aussi de se battre par rapport aux logements sociaux pour les logements PMR, personnes à mobilité réduite, je précise. Et donc, avec la loi Elan qu'il y a eu dernièrement, qu'on a réduit à 20% de logements accessibles, ce n'est pas suffisant pour nous, parce qu'avant, c'était 100% de logements accessibles par rapport à la loi du 11 février 2005 sur l'accessibilité. On intervient aussi dans le domaine de l'accessibilité, mais les transports aussi. Après, on se bat aussi dans le domaine de l'emploi, travailleurs handicapés. Malheureusement, il y a encore des graves problèmes par rapport à ça, parce qu'il y a souvent des personnes qui se plaignent parce qu'il n'y a pas assez de suivi vis-à-vis de leur référent du handicap au niveau de Cap Emploi, ou il y a aussi un manque de, aussi qu'on leur propose des formations, on leur propose pas de formation assez suffisante. Puis aussi, je pense que les 6% d'effectifs qui a été mis en place par rapport à la loi sur l'emploi des personnes en situation de handicap, je pense qu'il faudrait revoir à 20%. Je pense que ça serait logique et en même temps augmenter l'amende. Parce que malheureusement, il y a certaines entreprises qui le font, il y en a d'autres qui préfèrent payer une amende qu'adapter un poste. Et après, on propose aussi de services à domicile, téléassistance, on a un partenariat. Après, on organise des séjours de vacances accessibles avec des partenaires. Et on propose aussi, au niveau de la santé, de l'épargne handicap, de la prévoyance, de l'assistance. On essaie d'orienter le mieux possible les personnes handicapées pour pas qu'elles se font rouler, entre guillemets, dans la farine, par rapport à des personnes qui sont pas tellement très bien dans cette société. Donc on essaie vraiment de les accompagner, mais de rien lâcher surtout. C'est le but aussi de l'association, c'est être à l'écoute, mais de leur dire « vous n'êtes plus tout seul ». Ça dépend aussi de la pathologie, puis ça dépend du handicap, de la gravité. Mais il y a des personnes en situation de handicap qui ont des compétences, qui ont des idées, qui ont du talent. Et malheureusement, des fois, on ne leur donne pas l'occasion de pouvoir s'exprimer, de pouvoir apporter un plus à cette société. Ça commence, mais pas assez. Donc nous, de notre association, c'est de mettre en valeur nos compétences en tant que personne en situation de handicap. C'est surtout arrêter de toujours penser que le handicap, oui, mais cette personne, elle n'arrivera pas. Il y a des établissements, ici et là. Je vais peut-être mettre un petit peu en porte-à-faux, Mais pour moi, je trouve que les établissements, ça a fait son temps. Il y a d'autres solutions autres que des établissements où les personnes en situation de handicap pourraient être mieux avec les bégainéages et tout ce qui s'ensuit, je veux dire, avec une proximité, avec un service de proximité au niveau médical. Il y a des possibilités. Ça a déjà été mis en place par certaines associations. Donc, ça fonctionne. Donc, il faut arrêter de croire que les personnes en situation de handicap, elles peuvent rester que dans des établissements. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est vivre comme tout le monde. Et ça, l'association Handi Défense, elle est là pour être leur porte-parole. Dire ce qui ne va pas, mais dire aussi ce qui est positif. On ne peut pas toujours dire qu'il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui se mettent en place. Mais ce n'est pas suffisant.
Et Gérald, sur cette question, en tant qu'ancien professionnel du soin aux personnes handicapées, est-ce que vous pourriez justement donner votre point de vue ?
C'est d'actualité, on est en train d'en parler. Il y a des grèves qui sont survenues dans les hôpitaux concernant le manque de main-d'œuvre et de moyens nécessaires à pouvoir faire de bons soins, d'excellents soins, dans d'excellentes conditions. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas productivisme à des soins portés sur l'humain. C'est-à-dire qu'on priorise d'abord le rapport humain à je fais 8 toilettes et on passe outre tout ce qui est communicatif. Il faut passer par le nombre de personnels supplémentaires et les former et qu'on laisse le temps aux personnes justement soignantes prendre le temps avec les personnes dans une situation de handicap de pouvoir bien leur apporter tout ce qui est nécessaire à ce qu'ils puissent aussi eux accepter leur handicap ou leur future pathologie handicapante.
Nous sommes toujours avec Gérald Dombicki et Hervé Bédu de l'association Handi Défense. Hervé Bédu, vous avez une double casquette puisque vous êtes aussi un relais local pour une autre association qui est l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, l'APHPP.
Le but de cette association, déjà, c'est un collectif composé d'acteurs de la société civile, associative, économique et politique, à mener une réflexion qui s'alimente régulièrement, car notre société est toujours en mouvement, et surtout pour apporter des améliorations de manière pragmatique et concrète pour une société inclusive. Le mot est quand même au sens large, inclusive, donc c'est pour tout le monde. Donc il n'y a pas de différence. En plus, cette association, elle travaille aussi par des missions, proposer des chartes d'engagement par rapport aux politiques qui sont mises en place pour leur dire qu'il y a telle thématique du handicap où il faudrait changer. Quand on parle d'amélioration, entre guillemets, du manque d'effectifs, d'augmenter l'effectif au niveau des établissements médico-sociaux, hôpitaux, tout ça, ça fait partie aussi de cette thématique aussi. C'est donner beaucoup plus de moyens, mais s'il y a un manque d'effectifs, donc ça se répercute sur la qualité du service proposé aux malades. Donc il faut donner beaucoup plus de moyens financièrement. C'est une association qui est gérée avec des correspondants dans toute la France. Ces correspondants travaillent au niveau proximité, sur le terrain. Ça peut être des associations, ça peut être des représentants, des élus, ça peut être des personnes qui travaillent dans le milieu médical, même sportif, parce que le sportif, c'est un milieu d'intégration pour promouvoir, mais d'une façon positive, le handicap. Et donc, l'APHPP, c'est vraiment pour faire bouger. Nous, on est là pour leur faire éclairer et puis leur dire, écoutez, là, ça ne va pas, il faudrait peut-être revoir votre copie sur tel et tel programme. Là, il y a eu le projet aussi sur l'autisme, il n'y a pas longtemps, qui est en train de se mettre en place. Il y a le projet aussi sur l'éducation nationale, sur l'enseignement avec les AESH, ex-AVS, pour l'accompagnement d'une personne en situation de handicap. Nous, vraiment, c'est faire aboutir, mais concerter, dialoguer, pas tout casser, je veux dire, mais utiliser les lois, parce que les lois sont là, mais malheureusement, elles ne sont pas appliquées. Et la loi d'accessibilité par rapport au 11 février 2005, malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas appliquées. Et ça, là-dessus, je pense qu'il faut retravailler.
Alors, est-ce qu'on pourrait énoncer brièvement une série de mesures qui pourraient être mises en place pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées, améliorer les conditions de vie?
Donc, nous, on a fait un livre blanc qui prenne chaque action qu'on veut déterminer par rapport à chaque thématique du handicap. Premièrement, l'éducation, la formation aussi des enseignants, telle pathologie de la personne en situation de handicap. Ça, c'est important. Après, sur le travail, l'insertion professionnelle, le transport, le logement, le sport. On parle aussi des Jeux paralympiques en 2024, le faire en même temps que les Jeux olympiques. Et les arts aussi, la culture. Parce qu'il y a aussi des personnes en situation de handicap qui font des choses superbes. Et aussi par rapport à la citoyenneté, plus grande représentativité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes en situation de handicap, ce sont aussi des citoyens à part entière qui votent, mais qui veulent aussi faire partie de ce monde, entre guillemets, politique, être aussi dans des conseils municipaux, être conseiller municipal, être adjoint au maire, être maire ou autre mandat parlementaire. Parce que ce sont aussi des personnes qui ont envie aussi de participer à cette société, de dire ce qu'ils veulent faire aussi, et qu'ils ont besoin de s'exprimer, et besoin aussi de pouvoir passer des messages positifs, surtout, et aussi lutter contre toute forme de discrimination. Parce que malheureusement, on est encore confronté à toute forme de discrimination. Et on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais on en parle assez souvent, aussi la maltraitance.
Où est-ce qu'on peut vous trouver, Andy Défense?
Donc Andy Défense, si vous voulez, il y a un site internet, www.andydefense.com. Après, il y a l'association Andy Défense qu'il faut taper sur Facebook aussi. Après, il y a sur Twitter, je vais pas tous les énoncer. Il y a même sur YouTube, il y a quelques vidéos aussi de l'association où je parle sur telle thématique. Et après, bon, bah, sur le site internet, de toute façon, il y a les numéros de téléphone, il y a les permanences qu'on fait aussi par rapport à l'association, ou sur rendez-vous, je veux dire. Donc les gens, ils peuvent nous contacter facilement.
Et la PHPP ?
La PHPP, pour l'instant, c'est sur le site Facebook. APHPP, site Facebook. Là, ils sont en train de refaire entièrement leur site internet pour qu'il soit beaucoup plus accessible. Et sur le site Facebook, de toute façon, il y a les coordonnées, il y a tout.
C'était Gérald Dombiki et Hervé Bédu de l'association lensoise Andy Défense qui intervient auprès des personnes en situation de handicap. Hervé Bédu est également correspondant local pour l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Ce sujet a été réalisé par Luc Chaden pour Radio PFM et Micro Rebelle.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Mais là, un groupe de jeunes prodiges, joueurs de jazz new-yorkais, avec un titre qui s'appelle Dak. On va rester plutôt dans une tonalité assez douce pour la fin de ce micro-rebelle, en tout cas musicalement. On se dit au revoir, retrouvez-nous sur microrebelle.fr. Merci à nos amis de Radio Plus et de Radio PFM qui rediffusent cette émission. À la semaine prochaine.
Hey, what you've done? God won't help us anymore. I won't cry out for sure. I just back down sometimes. Well, I say, hey, what you've done? God must be gone. So I won't forget, of course, what you have done this time. Let our hearts cry, cry, cry. It's a far cry from my tears and yours, but the mouth goes on.
No need to go cry, no.